Vous écoutez RTL.
Il est 14h03 sur RTL. Salut les petits curieux.
Salut Christelle. Bonjour Christelle. Alors on a envie de vous dire comme Georges Marchais à son épouse, Christelle, fais tes valises. Parce que oui Christelle, on
Liliane.
S'en va.
Liliane.
Oui, c'était Liliane.
Et je crois que c'était Thierry Leluron, ouais. Je crois qu'il faisait les
valises. Oui, Marchais, il faisait très bien.
C'est un peu long. On vous embarque, vous et tous les curieux avec nous, pour faire un voyage à couper le souffle dans des trains pas comme les autres.
Et tout de suite, on part à la chasse au trésor sur RTL.
Tout a commencé au marché aux puces lorsque j'achetais une superbe maquette de bateau.
RTL.
Un parchemin. Il était caché dans le bateau.
Anaïs Bouton.
La licorne coulait, emportant avec elle, dans les profondeurs de l'océan, le trésor de Rackham le Rouge.
Tonaïeg.
Le trésor de Rackham le Rouge. Les parchemins mènent au trésor.
La curiosité est un vilain défaut.
Des histoires de trésors dans la curiosité. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Bienvenue sur RTL si vous nous rejoignez à l'instant. On est ensemble jusqu'à 15h. Écoutez bien notre émission, on vous fera gagner tout à l'heure des places pour la tournée d'adieu d'Elton John. Donc soyez attentifs. Bonjour Anaïs.
Bonjour Thomas, bienvenue dans votre cabinet de curiosité. Vous ouvrez des tiroirs et vous trouvez pêle-mêle de l'histoire, de la science, de l'aventure, des animaux, des plantes, des sagas musicales et des Jacques Pradel.
Mais oui, d'ailleurs, il faudrait peut-être qu'on fasse un peu le ménage dans notre cabinet de curiosité. Comment ça va Jacques?
Bonjour Thomas, bonjour Anaïs.
Bonjour. On est très heureux.
Très
de
bien,
vous...
très bien.
Ben oui, on est très heureux de vous recevoir dans la curiosité à cet horaire que vous connaissez ô combien sur RTL. Grâce à vous, on part donc à la chasse au trésor avec ses mystères, ses fantasmes. Et on va commencer par l'un des plus célèbres de France, celui de Rennes-le-Château. Vous pouvez nous rappeler, tiens, pour démarrer, comment on surnomme ce village?
Ah ben, c'est le village du curé au milliard.
Le curé au milliard.
Ben oui, bien sûr, le curé au milliard, ça fait la réputation de ce petit village de l'Aude qui se trouve à peu près à 80 km de Carcassonne, pas loin de Limoux. C'est magnifique, c'est sur un éperon rocheux. Mmh. Et alors en face, quand même, parce que c'est aussi un haut lieu de l'ésotérisme mondial, c'est un petit peu le Da Vinci Code à la française, en face vous avez le fameux mont Bugarache où étaient venus se réfugier en 2012 des gens qui attendaient la fin du monde, puis la fin du monde a été reportée, enfin bon, etc.
Heureusement elle a été reportée. Voilà. Pourquoi vous dites Da Vinci Code à la française? Qu'est-ce qui rend ce trésor particulier?
Ben, c'est ça, justement. C'est la légende. C'est-à-dire que on a plusieurs histoires dans l'histoire. C'est une histoire gigogne, l'histoire du curé au milliard. Alors, il s'appelait Béranger Saunière. Mmh. Il arrive en 1885 dans ce petit village. Il est né à 5 km de là. C'est un type qui n'est pas spécialement riche. C'est pas une famille de gens tout à fait de cultivateurs, on va dire, moyennement. Je n'ose même pas dire moyennement riche, quoi, mmh. Je veux dire. Bon. Et cet homme-là, et nommé là, c'est déjà... c'est pas Rome, hein, quand ouais. Même. Bon, voilà. Alors, il est là. C'est un beau mec, j'allais dire.
Il est séduisant.
Très séduisant.
Ouais, mais alors justement, c'est pas Rome, mais dans quel état se trouve l'église quand lui arrive à Saunière ?
L'église est quasiment en ruine. Il pleut dans l'église. Et il va commencer à faire un certain nombre de petits travaux de réfection. Il va mettre un peu d'argent, mmh. Enfin très peu. Et puis ça va s'emballer au bout d'un moment. Il va un jour, il y a des ouvriers qui sont là. Ils ont trouvé quelque chose dans un pilier. Ils voulaient bouger la dalle du maître-autel. Ouais. Et là, il s'est passé quelque chose parce que le curé demande aux ouvriers, interrompt le chantier, leur dit allez-y, ferme l'église. Et on entend des bruits de pioches, de trucs. Il s'est enfermé dans son église et plus tard avec sa servante, qui était également sa maîtresse, disons-le, ouais. Marie Desnarnaud, on va les surprendre de nuit dans le cimetière, les gens vont se plaindre, le curé ne respecte pas les morts, enfin, il y a tout un voilà.
Donc ça, c'est le climat de démarrage, la légende commence, parce qu'il y a de l'argent qui va arriver d'un seul coup, alors qu'on est dans une paroisse pauvre, un curé pauvre, et d'un seul coup, il y a une forme de richesse qui apparaît.
C'est-à-dire que on croit savoir qu'il a trouvé un parchemin dans un des piliers de l'église. Il a vraisemblablement aussi trouvé ce qu'on peut appeler un petit trésor. Parce qu'à l'époque de la Révolution française, les curés avaient planqué de l'or, des objets de culte, et ils étaient partis. Et ensuite, le curé de Rennes-le-Château était parti pour l'Espagne. Ouais. Il avait certainement laissé quelque part dans l'église un petit trésor que Saunière a trouvé. Mais ça n'explique pas effectivement l'ampleur des travaux dans les années qui vont suivre, parce qu'il va avoir la folie de la construction. Il va entièrement rénover l'église, puis après il va s'attaquer au parc, il va refaire les remparts, il va construire un presbytère mais magnifique qu'il appelle la Villa Betania, et puis après il va construire, c'est son grand œuvre, la tour Magdala, qu'on peut voir encore aujourd'hui. Et on a chiffré les travaux à 660 000 francs or.
Mais personne ne l'interroge, personne ne lui demande d'où il sort cet argent pour faire ses travaux.
Il dit aux gens de s'occuper de leurs affaires. Voilà. Et puis, avec l'argent, il achète aussi un certain nombre de biens. Et il les met au nom de Marie Desnardeaux. Voilà. Et puis voilà, je sais pas. Alors, si vous voulez, bon, après, ça va se. Il va y avoir un retour de bâton, si j'ose dire. C'est-à-dire ouais. qu'on va apprendre brutalement que l'évêché s'est fâché, que le prêtre est suspendu à divinis, c'est-à-dire qu'il n'a plus le droit de dire la messe. Pourquoi ? Parce que l'Église s'était perçue qu'il y avait un trafic de messe.
C'est quoi un trafic de messe ?
Le bon curé envoyait des petites annonces dans toute la presse catholique européenne, et Dieu sait s'il avait des relations, ouais. parce qu'il était aussi royaliste et légitimiste, et voilà, les gens disaient, je voudrais qu'on dise une messe, mais voilà un peu d'argent. Bon, et il y avait beaucoup plus de messes demandées que d'heures dans la journée pour qu'ils puissent les faire.
Et donc, ça n'explique pas ce trafic de messes, même si c'est une réalité, ça n'explique pas tout, ça n'explique pas ces travaux pharaonique, le terme n'est pas approprié, mais en tout cas, ces travaux impressionnants qui ont été réalisés dans cette église de Rennes-le-Château. Vous allez nous livrer la clé du mystère, enfin on l'espère, Jacques Pradel, dans un court instant. Et puis il y aura une autre découverte fantastique, rue Mouffetard à Paris, avec des ouvriers qui trouvent des pièces d'or. Tout ça, c'est raconté dans La véritable histoire des trésors de France, aux éditions First. A tout de suite sur RTL.
La curiosité est un vilain défaut.
Ensemble, nous allons survoler en hélicoptère les plus belles régions de France. Partir à la découverte des trésors de notre patrimoine.
RTL.
Le trésor se cache quelque part dans cette zone de jeu que vous découvrez et qui s'étend de l'est du département et ses sites cathares jusqu'aux richesses du pays couserans tout à fait à l'ouest.
Avec Anaïs Bouton et Thomas Hugues.
La véritable histoire des trésors de France dans votre cabinet de curiosité sur RTL. Et c'est ce que Jacques Pradel nous raconte. Alors, on était avec vous à Rennes-le-Château dans l'Aude, surnommé le village du curé au milliard. Alors, ce prêtre, il a vécu jusqu'en 1917, c'est l'abbé Saunière. Mmh. Et alors, autour de ce trésor, il y a quand même un grand nombre de fantasmes qui sont nés après sa mort, c'est ça ?
Alors, voilà, oui, une grosse partie sont nés après sa mort. Si vous voulez, tout à l'heure, on parlait très rapidement, on parlait du parchemin. Il a quand même... On a trouvé des papiers où il y avait une traduction de l'hébreu. Alors peut-être y avait-il un document qu'il aurait trouvé dans ce... On ne sait pas ce que c'est. On ne sait même pas, certains doutent que ça ait vraiment existé. Alors c'est peut-être des gens qui ont brodé plus tard. Parce que, en fait, donc il meurt en 17. Alors il meurt pauvre, hein. Il est dans le besoin.
Oui, parce qu'il a été un peu banni de l'église. Quoi.
Voilà. Voilà. Ouais. Peut-être qu'il n'a plus le loisir d'aller chercher un trésor s'il en a quelque part, bon, etc. Et Marie Desnardeaux, elle hérite du curé, mais elle hérite de ses dettes. Mais dans sa folie des grandeurs, il avait fait un parc incroyable, il y avait une cage avec un singe dedans, il se faisait livrer tous les mois 50 litres de rhum de la Jamaïque. Bon, il fallait bien que l'argent vienne quand même de quelque part. Bon. Ouais. Alors ensuite, on oublie le curé, on oublie Rennes-le-Château, il se passe rien pendant plein de temps.
On est quoi, juste après la guerre?
Alors, juste avant la guerre. Juste avant la guerre, Marie Desnardeaux, qui a du mal à joindre les deux bouts, va vendre en viager la Villa Betania à un certain Noël Corbu. Alors Noël Corbu, c'est un monsieur qui est un fanat d'ésotérisme, bon, etc. Il est intéressé déjà par les premières rumeurs.
Et il veut faire un hôtel, c'est
ça ?
Il cherche le moyen de faire de la pub ?
Voilà, exactement. Ouais. Il va faire, après la guerre, en 1949, l'hôtel de la tour, parce que c'est l'hôtel en bas de la tour Magdala.
Ouais.
Et comme les clients ne viennent pas, que c'est vraiment loin de tout, il invite à déjeuner ou à dîner des journalistes de la Dépêche du Midi, le journal du coin.
Ouais.
Et voilà, type 1, alors ça c'est en 56, brutalement, 5 colonnes à la une, la véritable histoire du curé au milliard.
Ah,
et là,
ça
tout le monde veut savoir. Et Corbu a réussi son coup. C'est un coup de com' formidable, 1956.
La preuve, on en parle encore aujourd'hui.
C'est extraordinaire. Oui. Bon. Et alors, 35 milliards, 50 milliards. Alors après, bon, voilà, on rêve. Et il y a une autre histoire dans l'histoire qui arrive. Il y a un monsieur qui est un écrivain qui s'appelle Gérard de Sède. Et Gérard de Sède, il écrit dans cette collection noire de mystères de Robert Laffont. Et il publie L'or de Rennes. Parce qu'il a rencontré des gens qui lui ont donné des indications. Et alors là, on tombe dans la folie furieuse. Oui. C'est-à-dire que, qu'est-ce qu'il aurait trouvé le curé ? Il aurait trouvé, en fait, sur ce fameux parchemin, la preuve que Jésus n'est pas mort sur sa croix, mais qu'il a traversé la Méditerranée avec Marie-Madeleine. Ils sont venus à Rennes, ils ont eu des enfants, et leurs descendants sont devenus les premiers rois mérovingiens.
Et on retombe sur le Da Vinci Code dont on parlait tout
à l'heure.
Voilà,
et c'est ce secret que possède le curé, qu'il aurait peut-être monnayé auprès de Rome directement pour avoir de l'argent, pour vivre sa folie des grandeurs.
Mais Jacques Pradel, on va boucler cette histoire, puis ensuite raconter comme promis celle de la rue Mouffetard à Paris. L'État pourrait régler le mystère d'une certaine façon.
Ah, ça serait pas mal. Ça serait pas mal parce que ça serait vraiment pas mal parce que on sait aussi que le curé a trouvé une dalle sur une tombe dans laquelle il y avait d'ailleurs un pot vraisemblablement avec un peu d'or, et en dessous il y a une crypte. Et sous la crypte, peut-être qu'il y a des souterrains. Mais pour faire le point, faut que l'État agisse et qu'on envoie voir parce qu'il y a peut-être un vrai trésor, celui-là, un trésor du patrimoine.
Eh oui, un trésor archéologique. Alors, autre histoire à venir sur RTL, celle de ces ouvriers de la rue Mouffetard qui travaillent dans un immeuble et qui découvrent des pièces d'or. Ne ratez pas ce récit dans un court instant.
RTL.
Tu crois que la planète au trésor sera découverte un jour ?
Mon ange, ce n'est pas une vraie planète, plutôt une légende.
Avec ce trésor, on pourrait rebâtir le Bembo 100 fois ou même plus.
Jim, c'est impossible, on ne pourra jamais...
Tu te souviens plus de toutes ces histoires ?
C'est tout ce qu'elles étaient, des histoires.
Anaïs Bouton, Thomas Hugues.
14h22 sur RTL, et avant de visiter la planète au trésor, plutôt la France au trésor avec Jacques Pradel. Tiens, un petit coucou à Isabelle qui nous écoute depuis les États-Unis, qui nous a envoyé un message via Facebook, tout comme Boubacar qui est nigérien et qui nous écoute tous les jours depuis le Maroc. Il nous a envoyé un message vraiment adorable et on l'embrasse très fort, on vous embrasse très fort. Alors Jacques Pradel, la véritable histoire des trésors de France, ces livres que vous avez supervisés, écrits par Marion Godefroy et Claire Simonin, publiés chez First, dans lequel on trouve le trésor de la rue Mouffetard à Paris. 25 mai 1938, que découvrent des ouvriers dans l'immeuble du numéro 53 ?
Alors, juste avant d'entrer dans l'histoire, dire que c'est un cas d'école, pour comprendre ce qui se passe quand on découvre un trésor. Mmh. À qui appartient-il ?
Eh oui.
53 rue Mouffetard, on est le 25 mai 1938, des terrassiers, des ouvriers du bâtiment ont été engagés par le propriétaire d'un grand appartement pour casser des parois, pour aménager le lieu. Et il y a donc un certain Flaminio, dont le prénom, qui est d'origine espagnole, est un terrassier, dont le prénom va être célèbre dans toute la France quelques heures plus tard. Il donne un grand coup de masse dans une paroi, et là, il y a un truc qui tombe. Alors, parce que on dit, vous savez, on a raconté après, on prête corrigement. Mais là, il y a un truc qui tombe. C'est un long boudin, je dirais, de toile, mais très long, qui ressemble, il prend au début, ça pourrait être un fourreau pour un très long parapluie.
D'accord.
Et puis, en fait, il voit qu'il y a quelque chose qui brille parce que c'est abîmé par le temps et tout. Il regarde, et là, des louis d'or, des louis d'or, des louis d'or. Deuxième coup de masse dans le truc, un deuxième boudin qui tombe, etc. Et bref, en quelques minutes, il y a plus de 2000 louis d'or état extraordinaire.
Mais lui, il croit que c'est quoi ? Il a conscience de ce que c'est ?
C'est un trésor, mais oui. Et puis alors, les journalistes viennent. Alors, comme c'est des ouvriers qui ont trouvé qu'ils vont peut-être être très riches, l'humain fait sa une sur le sujet. Ouais. Et puis, voilà, etc. On en parle partout et on dit, c'est formidable, voilà une histoire morale. Ces gens qui sont sous-payés, qui se crèvent au boulot toute la journée, vont être riches.
Est-ce qu'on peut remonter, retrouver l'origine de ces pièces, déjà de quand elles datent et,
à
qui elles appartenaient au départ.
Elles sont très très connues des numismates. Ouais. Ce sont des louis d'or. Ouais. Ce sont notamment des louis aux lunettes et des louis aux bandeaux dans un état exceptionnel. C'est-à-dire qu'elles valent très cher, mais il y a quand même un petit hic, c'est que dans l'autre paroi, quand on donne un coup de masse pour continuer les travaux, là, c'est un parchemin qui tombe. Ah. Enfin, ce qu'on prend pour un parchemin. On se dit, c'est peut-être la carte de... où il n'y en a plus. C'est... Non, pas du tout. C'est un testament. Et il y a le nom du propriétaire qui a caché ses pièces d'or dans cet appartement. Il s'appelle Louis Nivelle. C'est un membre du cabinet, on va dire, du roi Louis XV. C'est un grand argentier de Louis XV. Et il lègue cette fortune qu'il a dissimulée, on ne sait pas, pourquoi je pense en 1600 et quelques, enfin, il les cache et il les lègue à sa fille Marie-Louise. Donc
sur ce parchemin, il est écrit qu'il lègue cet argent à sa fille.
Et à partir de ce moment-là...
La tuile
c'est la tuile. On dit aux ouvriers, ah ben non, là vous n'avez rien touché, parce que jusqu'à présent c'était 50% pour vous, 50% pour le propriétaire de l'appartement, mais là c'est 100% pour les descendants de ce monsieur. On va essayer de les trouver. Si on ne les trouve pas, ça se discute.
Alors, on est en 38, donc il va y avoir la guerre qui va évidemment retarder toutes les...
Les pièces sous séquestre.
Voilà, toutes les procédures. Mais vous allez nous raconter le fin mot de l'histoire dans un court instant, Jacques Pradel. Finalement, ces ouvriers de la rue Mouffetard ont-ils récupéré ne serait-ce qu'une petite partie de ces pièces d'or? Réponse à venir sur RTL.
RTL, la curiosité est un vilain défaut.
Anaïs Bouton, Thomas Hugues.
Et Jacques Pradel, quel bonheur de recevoir Jacques dans la curiosité pour raconter la véritable histoire des trésors de France entre mythe et réalité. C'est le titre du livre que vous avez supervisé et qui est publié chez First. Alors on était avec ces ouvriers de la rue Mouffetard qui découvrent en mai 38 des dizaines, voire des centaines de...
2000 louis d'or.
2000 louis d'or, sauf qu'il y a un propriétaire, en tout cas les descendants du premier propriétaire, ce Louis Nivelle. On attend la fin de la Seconde Guerre mondiale, on est en 49 et on va avoir la réponse judiciaire. Ces ouvriers vont-ils récupérer quelque chose, Jacques ?
Très peu. Très très peu. Mmh. Parce que entre-temps, on a fait une recherche d'héritiers. Mmh. Louis Nivelle, qui était donc au cabinet, on dirait, du roi Louis XV, et qui était, un spécialiste des finances, a tout légué à sa fille Marie-Louise. Mais sa fille, elle a eu des descendants, etc., etc.
Et on a retrouvé les descendants.
On a retrouvé, et dont un ancien gouverneur de la Banque de France. C'est quand même, c'est plus l'humanité qui fait la une.
Surtout quand on se souvient de l'humanité qui s'était emparée de l'histoire.
Extraordinaire. Alors, cherchez pas la morale, il n'y en a pas. Enfin, on dit dans le livre avec Marion Godefroy et Claire Simonin que, pour une fois, l'honnêteté ne paye pas, parce que ces gens ont déclaré leur trésor. Mmh. Ils ont eu... une cinquantaine de pièces ont été vendues aux enchères.
À se partager.
Pas, qu'elles n'étaient pas décrites dans le testament.
D'accord.
Mais c'est l'administration, Et autrement, il y a eu la vente de ce qu'on appelle la succession Louis Nivelle en 1952 à Drouot.
Voilà. Merci beaucoup, Jacques Pradel. Je rappelle que vous êtes donc le directeur d'ouvrage de ce livre Véritable histoire des trésors de France, publié chez First. Et puis on vous retrouve ce soir sur RTL, 20h.
Oui, absolument. Et puis peut-être avec. Je reprends ma pelle et ma pioche, on ne sait jamais. On va trouver un trésor.
Ah, allez,
d'ici ce soir.
Vous venez nous en parler dès demain, si vous avez
ça sera le scoop de la journée.
Thomas Hugues, Anaïs Bouton.
La curiosité est un vilain défaut.
RTL.